Avec Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir Natacha.
Bonsoir Alain.
Bonsoir Natacha.
Bonsoir Alain. Alors, la question est toute simple. Voter la censure, c'est-à-dire faire tomber le gouvernement Barnier, est-ce que ce serait l'apocalypse politique ?
Non, ça ne serait pas l'apocalypse parce qu'il y a toujours des solutions ou des expédients. En revanche, ça serait probablement le plus gros ouragan politique qu'on ait connu depuis le début de la Ve République. Ça n'est déjà pas mal. D'une part, à cause de l'incroyable conjonction de crises simultanées qu'il y a en ce moment, et cette semaine, de ce point de vue, est surréaliste hein, par ses enjeux, et puis d'autre part, parce que la maîtresse du jeu, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle appuie sur le bouton et le gouvernement Barnier saute. Or, c'est ce que souhaite son électorat, ses militants, certainement la grande majorité de ses députés, et elle-même est en ce moment pulsérée par sa situation personnelle. Bon, donc, ça fait beaucoup de raisons. C'est tellement possible que ça devient presque probable. Sauf si, je dis bien sauf si, premièrement, Michel Barnier accepte de faire de façon un peu spectaculaire une ou deux concessions à Marine Le Pen, c'est-à-dire en gros à accepter qu'on déchiquette son budget. Bon, ou ce qui n'est pas une hypothèse totalement absurde, parce que ça a quand même commencé aussi. Bon, ou sauf si Marine Le Pen elle-même considère, puisqu'elle espère toujours que l'élection présidentielle va être très vite, qu'elle apparaisse comme l'architecte du chaos. Je dis bien, sauf si.
Voilà, c'est ça. En fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire, la nuance que j'apporterais par rapport à vous, Alain, c'est que, en fait, c'est pas la séquence-là qui est surréaliste. Ça s'est ouvert avec la dissolution. Et depuis que la dissolution a eu lieu, on sait que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, on a touché
mais là,
le fond,
c'est l'instant.
On sort les tractopelles, on creuse, on trouve du pétrole.
Mais là c'est l'instant.
Hallucinant.
Là,
oui.
C'est l'instant. Parce que,
bien sûr,
à cause de la chronologie du budget.
Sauf que. D'abord, on a d'un côté donc les soutiens du gouvernement qui défilent sur les plateaux de télé pour nous expliquer que ce serait l'apocalypse s'il y avait une censure. Ce n'est pas vrai. Il y aurait
Pourquoi
un budget.
Ben,
tout simplement parce qu'on reconduirait le budget de l'an dernier. Point. C'est absolument pas idéal.
C'est pas mais le c'est budget pas, que nous demande l'Europe, les marchés financiers,
d'accord,
les agences
de toute façon,
ni les Français d'ailleurs.
Mais bien sûr, mais les Français ne demandent pas non plus le budget qui est en train d'être voté.
Je suis d'accord.
Et qui est un budget par défaut, sans aucune cohérence véritable, sans aucune vision d'avenir. C'est un budget de quelqu'un qui n'a pas les mains libres.
C'est un budget radical socialiste.
Oui, c'est très très méchant comme insulte.
Ah, oui, mais c'est vrai.
En tout cas, voilà. Donc, ce ne serait pas l'apocalypse. En revanche, ça ouvrirait une crise, mais la crise est ouverte depuis longtemps.
Les crises.
Alors, attention, je distingue. Ça ouvrirait une crise de régime, une crise
institutionnelle,
politique.
Institutionnelle, oui.
Ce qui est tragique, c'est que ça arrive dans un moment où, en effet, vous le disiez Alain, à juste titre, on est dans un contexte international absolument terrifiant et on aimerait bien que la France ait une voix qui pèse à ce moment-là. Or, tout a été fait pour que la France n'existe pas, soit incapable de dire franchement quelle est la politique qu'elle veut mener. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron s'est privé petit à petit de son pouvoir. Alors, ajouter une crise politique aux godilles sur les questions internationales me semblerait assez problématique. Mais pour autant, in fine, ça ne changera pas grand-chose. On est déjà dans une situation assez terrifiante.
Politique, déjà, de faire chuter le gouvernement Barnier. À qui ça profiterait ?
D'abord, il y a une demande de l'électorat du Rassemblement National. D'après le dernier sondage, les deux tiers. Alors, je ne suis pas assez naïf ou oublieux pour croire que les dirigeants politiques suivent toujours ce que souhaitent leurs électorats. Mais enfin, c'est un fait. Ensuite, parce que le Rassemblement National n'a jusqu'à présent, depuis que Michel Barnier est là, rien obtenu, sinon de la politesse. Mais en dehors de la politesse, il n'a rien obtenu du tout. Il n'y a pas un exemple de sujet sur lequel Michel Barnier lui a accordé une concession perceptible.
Et pourquoi alors ? Parce qu'il l'a bien fait avec Laurent Wauquiez ?
Il l'a mal fait avec Laurent Wauquiez, oui. Et il a eu tort, de son point de vue, et tort en général d'ailleurs. Et du coup, tous les autres sont furieux, a fortiori pour le Rassemblement National, qui, contrairement aux autres, contrairement au socle commun, a, lui, les moyens de rétorquer tout de suite. Ce qui n'est pas le cas des autres. Donc Marine Le Pen, en fait, est la maîtresse du jeu.
Oui, C'est le paradoxe là-dedans, c'est qu'on a des partis politiques qui jouent tous la politique du pire, et chacun essaye de grappiller son petit moment de célébrité. Regardez Gabriel Attal qui monte sur ses ergots à la moindre décision budgétaire, Gérald Darmanin qui sort des absurdités depuis qu'il a quitté le gouvernement. C'est-à-dire que tous essayent de pousser leur avantage.
Ça ne s'arrête pas à eux.
Ah non, ça ne s'arrête pas à eux. J'allais continuer la litanie,
mais elle est très longue. Pour 2027.
De toute façon, ils ont tous 2027 en tête et on a un véritable problème politique.
Et ils se demandent tous si 2027 n'aura pas lieu avant 2027.
Et du coup, et certains le souhaitent et agissent dans ce sens, mais Jean-Luc Mélenchon en particulier. Mais
oui, et Marine Le Pen.
Et on ne sait pas si Marine Le Pen le souhaite ou pas, puisque ça dépend grandement de la date et des résultats du verdict de son procès.
Et de ce point de vue, le réquisitoire des procureurs, ça a créé, dans son esprit, visiblement un fait nouveau.
Et une urgence potentielle. Mais pour autant, dans la mesure où elle ne sait pas quel sera le résultat et quel sera le jugement véritable, elle n'a pas forcément intérêt à jouer une présidentielle avancée.
C'est pour ça que je dis que une des possibilités pour éviter une crise totale, c'est que Marine Le Pen ne veuille pas passer pour l'architecte du chaos.
Mais au-delà du chaos, même si ce n'est pas le chaos, ce qui serait paradoxal, c'est qu'en faisant tomber le gouvernement Barnier, qui est quand même plutôt un gouvernement de droite et du centre, que Marine Le Pen provoque l'arrivée de la gauche au pouvoir. Oui, enfin, que Emmanuel Macron pourrait très bien se tourner vers la gauche.
Oui, mais ce sera toujours pas une gauche.
Ce sera un simulacre.
Hein.
Oui, d'accord.
Sera,
Marine Le Pen s'explique auprès de ses électeurs.
Si Marine Le Pen fait voter la censure, ce qu'elle peut faire quand elle veut. Ouais. Et si le gouvernement tombe, même si probablement est-ce qu'il expédierait pendant quelques semaines, voire deux mois, les affaires courantes. Mmh. Mais enfin bon, s'il tombe, effectivement, on peut imaginer, moi j'y crois pas beaucoup, mais enfin, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron demande à quelqu'un du nouveau Front Populaire de prendre la tête du gouvernement.
Enfin, en tout cas, ils vont réclamer.
Oui. Non mais ça sera réclamé et il se peut qu'il le fasse. Moi, je ne crois pas qu'il le ferait, mais il se peut qu'il le fasse. Bon, s'il fait ça, bah écoutez, c'est extrêmement simple. Marine Le Pen, à la fois, aura un peu l'air de s'être trompée. Bon, mais en même temps, elle se vengera immédiatement et il y aura une motion de censure qui, pour le coup, passe très facilement.
Donc c'est là où est le chaos politique, c'est-à-dire qu'on voit pas la. C'est
quoi le plan B ? Non, mais il n'y a pas d'issue. Ça, on le sait depuis qu'on a vu le résultat de cette chambre. Il n'y a pas d'issue positive. C'est-à-dire que de toute façon, là, on va perdre du temps jusqu'à la prochaine présidentielle.
Sauf si la présidentielle est avancée.
Oui, mais l'inconvénient d'une présidentielle avancée, c'est que ça se ferait de nouveau dans l'urgence et dans le chaos, alors que ce dont a besoin la France, c'est de trancher des débats de fond. C'est d'avoir enfin une véritable campagne présidentielle qui ne soit pas escamotée par la guerre en Ukraine, le fait que le président sortant se représente mais ne veut pas débattre, tout ce genre de choses. L'espèce de gigantomachie sur le thème « Nos passaran, le fascisme est à nos portes ». Tant qu'on a ça, on n'a pas de débat sur des sujets aussi essentiels que, par exemple, l'aménagement du territoire, quelle école aujourd'hui, quelles sont les orientations essentielles, comment on organise la fonction publique pour qu'elle soit efficace, pour qu'il y ait des services publics corrects qui fonctionnent, quelle politique vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de l'Europe. Tout ça est absolument fondamental et ça nécessite de prendre du temps parce que ce sont des sujets dans lesquels il faut rentrer pour expliquer vraiment les enjeux.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce qui nous manque en fait depuis 2017 exclu à mes yeux. C'est-à-dire que je pense que ça a eu lieu en 2017, même si c'était imparfait, mais ça n'a pas eu lieu depuis. Bon, ça commence à faire longtemps. C'est effectivement un débat. Est-ce que le débat de fond aurait lieu ? Mon expérience des élections présidentielles me rappelle qu'il n'y a pas toujours des débats de fond. Non. Et quand il y a des débats, même violents, ils ne correspondent pas toujours à ce qui en réalité est l'essentiel. Quand vous disiez l'éducation, l'éducation, on sait très bien que c'est essentiel. J'ai jamais vu dans une campagne présidentielle.
Elle est à chaque fois encore.
Et je les ai toutes vues. Alain. Pourtant, jamais. jamais ça n'a été traité sur le fond.
Olivier a raison de dire deux ou trois conceptions. Que moi, j'y crois encore, c'est-à-dire que je pense que les Français se rendent compte de plus en plus que ces débats sont essentiels et que finalement, pendant des décennies, ça a été largement escamoté parce que moi, j'inclus 2017, c'est-à-dire que 2017 s'est joué beaucoup sur des fausses postures, c'est-à-dire il faut être optimiste contre les déclinistes, il faut être ouvert contre ceux qui sont pour la fermeture. C'est une posture totale parce qu'il n'a pas été dit.
C'est une posture, mais pas une fausse posture. Voilà, c'est pas la même chose.
Pardon, excusez-moi. Vous avez raison de me reprendre. Oui. C'est une posture, c'est-à-dire que ça n'est absolument pas comme ça qu'on décide une politique. Non, l'enjeu, c'est pas de dire est-ce que vous êtes pour ou contre l'Europe, est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture.
En attendant, on n'y est pas.
C'est pas ça. Oui.
Là, pour l'instant, on a Michel Barnier, qui a trois semaines, puisque il lui reste trois semaines pour convaincre et sauver sa place. Mais est-ce qu'il s'y prend bien, là, jusqu'à présent, Michel Barnier? On nous a dit, c'est quand même lui qui a négocié le Brexit avec les Anglais. C'est un négociateur hors pair. Est-ce qu'il s'y prend bien?
Écoutez, bon, il faut reconnaître que, d'une part, il n'a eu du temps pour rien, et d'autre part, que tout ça a été totalement improvisé. Même s'il avait envie d'être Premier ministre, il n'empêche que, il y a un peu plus de deux mois, ça n'était pas le plus probable de ce qu'on disait. Donc, il a, bon, en plus, il n'a pas de majorité. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de majorité, c'est qu'il est en nette minorité. Bon, donc, je reconnais que c'est extraordinairement difficile. Est-ce que pour autant, il s'y prend bien? On voit quelle est sa technique. Sa technique est de dire, tout le monde s'excite dans des sens opposés, et moi, je prends un air paisible, plein de sang-froid, mûri par ma longue expérience, et j'attends qu'il se fatigue, et à ce moment-là, je proposerai une synthèse finale qui sera pas formidable, mais qui sera pas non plus provocatrice pour les uns et les autres, et on se dira, plutôt que de se précipiter dans une crise dont on ne sait finalement pas à qui elle profiterait, gardons-le un peu. Moi, je pense que c'est ce qui joue. Est-ce que c'est glorieux? Non. Est-ce que c'est séduisant? Ça peut l'être pour certains, pour moi non plus. Non.
Mais est-ce que c'est efficace? Non plus. C'est bien le problème.
Est-ce qu'il y a autre chose ou quelqu'un dont on se dise, bon, je prends un exemple, en 54, Mendès est arrivé en disant, moi, j'ai une stratégie complètement différente de la vôtre, complètement différente du fonctionnement du Parlement tel qu'il existe, et j'ai des objectifs précis avec un calendrier. Ces objectifs, ça n'est pas forcément ce que vous voulez, d'ailleurs, ça n'était pas ce que voulait sa majorité, et j'y vais. Bon, il y a été, et il a tellement bien réussi au début que tout le Parlement a pris peur et qu'ils n'ont eu plus qu'une idée, c'était de le vider.
Il a tenu combien de temps ?
7 mois.
Oui, mais voilà, je suis assez d'accord avec vous, Alain, sur ce point-là. C'est-à-dire que vous disiez, Michel Barnier n'avait pas beaucoup de temps. Ben justement, quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut foncer. Et je pense que l'idée qu'il faut temporiser, qu'il faut peser le pour et le contre,
ne sert
à rien.
Je suis d'accord.
À un moment donné, il faut y aller, quitte à ce que ça explose immédiatement.
Je suis d'accord, mais pour prendre une image, lui, qui est un haut savoyard, disons que dans son style et dans sa méthode, il est plus skieur de fond que skieur de descente.
Dans vos débats et dans votre discussion, il y a une petite absente, c'est la gauche et le NFP, avec notamment la sortie du week-end à propos de l'apologie du terrorisme qui a fracturé de nouveau la gauche. Est-ce qu'elle pourra tenir, la gauche, rester unie? Parce que là, il y a une vraie fracture.
Cette polémique...
Le PS peut s'en servir pour se séparer de la LFI?
Non, mais cette polémique est typique des sujets mal posés, mal pensés en permanence. Parce que je pense que les insoumis, une fois de plus, veulent instrumentaliser la loi pour des problématiques qui sont les leurs. En revanche, moi, j'ai toujours été opposée au fait qu'on accuse qu'on traîne devant les tribunaux pour apologie du terrorisme, par exemple Mathilde Panot ou qui que ce soit, qui ont été attaqués pour ça. Je trouve ça aberrant. Non, ça ne doit pas être instrumentalisé, la justice. Donc, vous voyez, ça, c'est une polémique très mal posée. En revanche, ce qui est intéressant là-dedans, c'est peut-être que la seule chose qui serait positive dans la chute de Michel Barnier, ça pourrait être que ça obligerait, en effet, les socialistes à prendre leurs responsabilités et à arrêter de conserver leur poste en se soumettant aux insoumis. Bon. Mais justement, c'est pour ça que j'allais terminer en disant je ne crois pas qu'ils en soient capables.
Cette polémique sur l'apologie du terrorisme lancée par la proposition de loi insoumise.
Moi, je dirais d'un côté que je déteste les délits d'opinion. Je trouve que les opinions, même quand elles me déplaisent, doivent pouvoir s'exprimer. Ensuite, je vois bien ce qu'il y avait de provocateur dans la méthode, évidemment. C'était l'évidence. Sur le fond, je trouve que l'utilisation de la loi de la presse, ça me paraît plus normal dans un pays démocratique comme la France. Sur le fond, je trouve que la loi de la presse, d'ailleurs, ça a fonctionné et ça peut être amélioré, bien entendu. Mais oui, je sais bien, dans les circonstances que vous vous rappelez. Bon, donc
ça peut fonctionner. Il ne faut pas changer les lois dans les circonstances. Il faut quand l'actualité.
Vous savez, en règle générale, quand on change les lois dans l'urgence de quelque chose de spectaculaire, on ne les change pas bien.